Matthieu par Apocalypse 7. C'est donc une parenthèse. D'abord, on voit un mystérieux messager appelé un autre ange. Mais en grec, angelos, c'est pas forcément un ange, c'est simplement un messager. Et on peut réaliser que c'est toujours dans l'Apocalypse, cet autre messager, il est décrit au chapitre 8 où il revient, il est décrit comme un sacrificateur auprès de l'autel de l'encens d'or en ciel. Et ce même messager est représenté en Apocalypse 10 comme un roi, comme un lion, et il prend possession de la terre. Il met un pied sur les continents et l'autre pied sur les océans. Un roi. Et voilà, Apocalypse 18 le présente comme un prophète qui annonce la chute de Babylone. Eh bien, on réalise, roi, prophète et sacrificateur. C'est le Messie qui doit, dans sa personne, donc réunir ces trois tâches. Et voilà cet autre ange. Et donc, la même chose comme dans l'Ancien Testament, l'ange de l'Éternel. Ce qui est aussi l'envoyé de l'Éternel. Et on voit dans l'Ancien Testament que l'ange de l'Éternel est effectivement l'Éternel. Voyez, Genèse 16 par exemple. Et alors, cet autre ange, c'est le Seigneur, le Fils de Dieu. C'est lui qui, en Apocalypse 7, il scelle les 144 000 d'Israël. Ces 144 000 sont appelés le premier fruit en Apocalypse 14. N'est-ce pas? La prophétie biblique déjà dans l'Ancien Testament parle qu'il y aura un grand réveil en Israël. Le résidu d'Israël va retourner vers l'Éternel et retourner vers le Messie. Et ce résidu d'Israël va se convertir après l'enlèvement. Les 144 000 sont simplement les prémices de ce moisson d'Israël dans l'avenir. C'est-à-dire qu'ils vont connaître le Seigneur après l'enlèvement et ils vont annoncer l'Évangile. Et le Seigneur dit en Matthieu 10, ils ne vont pas pouvoir finir avec les villes d'Israël jusqu'à ce que le Fils de l'homme vienne. Matthieu 10, 23. Eh bien, ils se convertissent donc pendant l'heure de l'épreuve, mais dans la grande tribulation, nous apprenons par Zacharie 13, verset 8, un tiers de la population d'Israël va se tourner vers le Seigneur dans la plus grande détresse. Et selon les chiffres d'aujourd'hui, un tiers, ça serait 2 millions. Vous voyez, beaucoup plus que simplement les 144 000. Donc, au moins, c'est plus de 2 millions vont se tourner vers le Seigneur. Et voilà, Apocalypse 7, verset 9 à 17, parle d'un résidu qui va se convertir de toutes les nations, de tous les peuples même, et de toutes les tribus et langues. Eh bien, là, il faut expliquer, 2 Thessaloniciens 2, en parlant de l'Antichrist, l'homme du péché, l'impie, le texte dit que Dieu va envoyer comme jugement une séduction par l'Antichrist pour que tout le monde va croire le mensonge. Et ensuite, Paul dit, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour pour la vérité, pour être sauvés. C'est-à-dire, la venue de l'Antichrist par le premier saut sera un jugement terrible pour un monde qui a entendu l'Évangile. Et pour eux, par l'enlèvement, la porte se ferme. Mais il y a énormément de gens dans le monde entier qui n'ont jamais entendu l'Évangile. Et là, Apocalypse 7 nous explique donc une foule innombrable va se convertir. Et ils vont passer à travers la grande tribulation. Et à la fin, Jean les voit avec des palmiers. Et ils vont vers le temple à Jérusalem avec les palmiers. C'est en rapport avec la fête des tabernacles. Donc il faut distinguer l'Église dans le ciel, les 24 anciens, le résidu d'Israël sur la terre, ensuite le résidu des nations. Ce sont des groupes différents dans la prophétie qu'il faut distinguer. Autrement, on mélange tout et ça finit par un chaos. Mais un chaos dans la tête. Donc, j'ai dit, ils vont passer par la grande tribulation et ils vont avoir, aller au temple du millénium. Jour et nuit, ils vont louer le Seigneur dans le temple d'Ézéchiel. Après, Apocalypse 8 continue avec la chronologie des événements. Là, on voit comme l'agneau de Dieu ouvre le septième sceau. Mais rien bouge. Il y a d'abord le calme avant la tempête. Et de nouveau, l'autre ange. Et cette fois, comme sacrificateur, devant l'autel d'or, pour donner de la force aux prières des saints. N'est-ce pas le Seigneur Jésus, Matthieu 24, parle à ce futur résidu d'Israël en disant il faut prier que leur fuite, juste au début de la grande tribulation, ne tombe pas sur un sabbat et ne tombe pas au temps de l'hiver, parce que c'est difficile de fuir sur les montagnes pendant l'hiver. Et alors, ils vont prier. Et voilà le Seigneur, le souverain sacrificateur dans le ciel, donne la force aux prières en ajoutant dans le sens qui parle de la gloire personnelle du Fils de Dieu. Ensuite, Apocalypse 8 nous dit, cet ange se prépare avec les sept trompettes. Ici, d'ailleurs, vous voyez la représentation dans l'arc de Titus à Rome, où on voit encore une représentation du premier siècle des Juifs en captivité après la destruction du temple en 70, qui porte, voyez, un chandelier avec cette lampe. En plus, vous voyez là les trompettes d'argent. Et vous voyez, avec la grandeur sur l'image, on peut donc faire une déduction de la grandeur de ces trompettes. Des trompettes jusqu'à 1,80 m. Alors, nous avons déjà compris, le septième sceau est composé de sept trompettes. Et là, de nouveau, les quatre premières trompettes forment un groupe pour soi, à part. Et la trompette 5 et aussi 6 et 7 sont appelées des trompettes de malheur. Vous voyez, ça forme un groupe pour soi. Et voilà, les trompettes 1 à 4 sont regroupées ainsi. La première trompette touche comme jugement la terre, les continents. La deuxième trompette, la mer, l'océan. La troisième, les fleuves et les sources. Et la quatrième, les corps célestes. Et nous allons voir, ça sera la même chose avec les quatre premières coupes d'or. D'abord, la terre est touchée, la mer, l'océan, fleuves et sources, corps célestes. Alors, la première trompette au chapitre 8, il y a du feu qui tombe du ciel et brûle le tiers des forêts sur la planète. Vous voyez, ce sont des catastrophes écologiques qui surpassent tout ce qu'on peut s'imaginer. Et je lis en Apocalypse 8, verset 8, la deuxième trompette, Et le second ange sonna de la trompette, et comme une grande montagne, tout en feu, fut jetée dans la mer. Et le tiers de la mer devint du sang. Le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient vie mourut. Et le tiers des navires fut détruit. Voilà une montagne qui brûle. Donc c'est un météore immense, comme une montagne, qui tombe sur la terre. Donc c'est une catastrophe qui est pire que toute une série de bombes atomiques et qui amène la mort à l'océan. Et voilà la troisième trompette, de nouveau un jugement venant du ciel. Verset 10, « Et le troisième ange sonna de la trompette, et il tomba du ciel une grande étoile, brûlant comme un flambeau. Elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les fontaines des eaux. Et le nom de l'étoile est Absinthe. Et le tiers des eaux devint Absinthe. Et beaucoup d'hommes moururent par les eaux, parce qu'elle avait été rendue amère. » Donc, de nouveau un météore qui tombe. Mais cette fois, qui ne touche pas les océans, mais l'eau sur les continents, les fleuves et les sources. Et voilà, une quatrième trompette qui touche justement les corps célestes, qui perdent une partie de leur lumière. Ensuite, chapitre 9. J'ai déjà expliqué, après les quatre, il y a le groupe des trois trompettes de malheur. Nous allons considérer numéro 5, les trompettes. Et je lis attentivement chapitre 9, verset 1. Alors, lisez le texte dans votre Bible ou écoutez le texte, mais en même temps, regardez les images qui vont justement expliquer ce qu'on lit. Et le cinquième ange sonna de la trompette. Et je vis une étoile tombée du ciel sur la terre. Vous voyez, pour bien dire, le texte ne dit pas qu'il a vu une étoile qui tombe, mais il voit juste une étoile tombée du ciel, qui est déjà tombée. Et dans le texte qui suit, il est expliqué que cette étoile porte le nom en grec d'Apollyon. Ce qui veut dire destructeur. Ou Abaddon. Abaddon, en hébreu, destruction. C'est le Satan. N'est-ce pas? Qui, selon Ésaïe 14, verset 12, est appelé l'étoile du matin, qui a été tombée, qui est tombée sur la terre. C'est la chute de cet ange qui est représenté par cette étoile tombée. Et ensuite, nous lisons donc du Satan et la clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Et elle ouvrit le puits de l'abîme. Abîme, en grec, c'est abyssos. Donc c'est un terme qui est utilisé en Romains 10 aussi pour le séjour des morts. Et utilisé comme le terme Hades, Abyssos, Abim, c'est aussi ce séjour des morts. Mais il y a une raison particulière pourquoi il est appelé ici Abyss, Abim, et non pas Hades. Je continue. Et il ouvrit le puits de l'Abim et une fumée monta du puits, comme la fumée d'une grande fournaise, et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Et de la fumée, il sortit des sauterelles sur la terre, et il leur fut donné un pouvoir semblable au pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Et il leur fut dit qu'elles ne nuisissent ni à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais aux hommes qui n'ont pas le sceau de Dieu sur leur front. et leur fut donné de ne pas les tuer, mais qu'ils fussent tourmentés 5 mois, et leur tourment est comme le tourment du scorpion quand il frappe l'homme. Et en ces jours-là, les hommes chercheront la mort et ne la trouveront point, et ils désireront de mourir et la mort s'enfuit d'eux. Ce qui est décrit ici. Et de quoi s'agit-il? Nous apprenons par Genèse 6 que des fils de Dieu se sont mélangés avec des femmes de l'humanité. Et comme conséquence, voilà, les géants sont apparus. Et Moïse dit que c'était là, à l'époque, avant qu'ils viennent, et aussi après. Et voyez les géants comme Goliath et ses frères et les fils d'Enak, etc. C'était nous la même chose. Donc les anges qui étaient chutés avec Satan, mais qui sont allés encore plus loin. Ils ont donc franchi la limite dans les lois de la création, qui se sont mélangés comme anges avec des humains. Et cela était aussi grave que Dieu les a liés après dans l'abîme, ou dans le Tartarus, dit 2 Pierre 2, verset 4. Et aussi, l'Épître aux Juifs parle expressément des anges qui ont commis fornication, comme les gens de Sodome et Gomorre. Et alors, Dieu les a mis dans des chaînes éternelles, dans les ténèbres. Et ça, c'est dans l'abysse, dans l'abîme. Et voilà, la Bible parle en rapport avec l'homme qui meurt, de l'Hadès, parce que l'homme meurt. Mais les anges ne peuvent pas mourir. C'est pour ça, le même séjour est appelé dans la parole aussi abyssos, en rapport avec les anges. Et en fait, c'est le même séjour où il y a les incrédules morts qui attendent le dernier jugement, comme on apprend par, non pas la parabole, mais l'histoire de l'homme riche en Luc 16. Mais il y a là une exception. Pendant la grande tribulation, pour le cinquième jugement de la cinquième trompette, alors Dieu permet que ces anges vont sortir un moment. Et ils vont développer une telle méchanceté qu'ils ne veulent même pas tuer les anges, mais vraiment les tourmenter pendant 5 mois. Et voilà, les gens vont espérer de pouvoir mourir. Mais les démons reçoivent le pouvoir comme jugement de prévenir même le suicide. Ça, c'est ce malheur, la cinquième trompette. Ensuite, la sixième trompette. Et là, Jean entend une voix qui sort des 4 cornes de l'autel d'or dans le ciel. Nous voyons de nouveau, il s'agit ici du temple céleste, qui juge un monde qui a rejeté le sacrifice de Christ. Et je lis là en Apocalypse 9, pour voir le texte de près, 9, 14, je commence au verset 13, « Et le sixième ange sonna de la trompette et jouit une voix sortant des 4 cornes de l'autel d'or qui était devant Dieu, disant au sixième ange qui avait la trompette, délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve Euphrate. » Tiens, là, il s'agit de 4 anges qui sont liés au long de l'Euphrate. Ce sont des anges, qui sont aussi des démons, mais ils ne sont pas liés dans l'abîme, mais au long de l'Euphrate. Liés en vue du moment où ils seront déliés. Et nous allons voir ce qui va se passer. Une catastrophe terrible. L'Euphrate devant nos yeux. voyez ce fleuve qui commence en Turquie actuelle, qui passe complètement à travers de la Syrie et ensuite à travers de l'Irak. Il faut mettre les yeux sur la région de la Turquie, de la Syrie et de l'Irak. Et lorsque ces quatre anges vont être déliés, ce qui est, n'est-ce pas, dans l'avenir, pas encore maintenant, ça va devenir beaucoup pire que maintenant. Et je lis justement 9 verset 15. Et les quatre anges qui étaient préparés pour l'heure et le jour et le mois et l'année furent déliés afin de tuer le tiers des hommes. En tout cas, un quart a été déjà tué, le quatrième sceau. Et maintenant, nous avons encore, avec les chiffres actuels, nous avons encore 6 milliards d'hommes, et maintenant encore un tiers tué. Et comment je lis, là, il ne s'agit plus de démons, mais il s'agit d'armées de l'humanité qui va faire une autodestruction. Je lis verset 15. Et le nombre des armées de la cavalerie était de 2 milliards de milliards. J'en entendis le nombre. Donc, des millions et des millions. Et c'est ainsi que je vis les chevaux dans la vision de ceux qui étaient assis dessus, ayant des cuirasses de feu, et d'hyacinthe et de soufre. Et les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions, et de leur bouche sortent du feu, et de la fumée, et du soufre. Par ces trois fléaux fut tué le tiers des hommes, par le feu, et la fumée, et le soufre qui sortent de leur bouche. Car le pouvoir des chevaux est dans leur bouche, et dans leur queue. Car leurs queues sont semblables à des serpents, ayant des têtes, et par elles ils nuisent, etc. Donc on voit ici effectivement une description d'armes modernes, de l'humanité qui va se détruire. Un tiers. Ensuite, une parenthèse. Apocalypse 10. Et Jean voit de nouveau cet autre ange qui a la puissance sur le monde. Il met un pied sur l'océan et l'autre pied sur le continent. Cela indique, voilà, c'est seulement encore une question du temps que le Seigneur Jésus, le Fils de Dieu, va prendre le pouvoir sur le monde. C'est la même personne comme cet autre ange qui a scellé les 144 000, qui était sacrificateur auprès de l'autel d'encens, et qui est le prophète en Apocalypse 18. Il est là, donc, roi. Il parle comme un lion. Et voilà, dans cette prophétie, Jean voit un petit livre ouvert. Ça, c'est intéressant. Un petit livre ouvert. Apocalypse 10, verset 2. Nous avons lu d'un livre. Donc un grand livre avec 7 sceaux. Et maintenant, c'est un petit livre, mais ouvert, sans sceaux. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, il s'agit ici d'un sujet prophétique qui est déjà connu dans l'Ancien Testament. C'est pour ça que c'est un livre ouvert. Ce que nous avons appris par le livre avec les 7 sceaux, ce sont des choses qu'on trouve de cette façon, jamais dans l'Ancien Testament. Ça, c'est vraiment révélé par le livre appelé Révélation de Jésus-Christ. Vous voyez? Et nous avons vu que ce jugement du livre avec les 7 sceaux touche donc le monde entier. Mais là, c'est un petit livre ouvert qui se concentre sur Jérusalem et le pays d'Israël. Et vous voyez, dans le chapitre qui va suivre, il est question des deux témoins. qui pendant les premiers 3 ans et demi, pendant 1260 jours, vont prophétiser à Jérusalem et rendre un témoignage unique pendant le temps des jugements. Au chapitre 10, verset 7, il est aussi question du mystère de Dieu qui va bientôt être réalisé. Lorsque la Bible parle dans le Nouveau Testament des mystères, il s'agit toujours des vérités concernant l'Église. Et dans les épîtres de Paul, nous trouvons 8 mystères. Toujours des vérités qui étaient cachées dans l'Ancien Testament, mais seulement révélées aujourd'hui en rapport avec l'Église. Et un de ces mystères est appelé, ici c'est le numéro 3, le mystère de sa volonté, Éphésiens 1, verset 9. C'est le mystère qui parle du millénium, ça c'est connu de l'Ancien Testament, mais qui dit que l'Église va avoir une part avec Christ pendant le millénium. C'est-à-dire que l'Église va régner avec Christ sur tout l'univers. Et c'est pour ça qu'il est dit ici, lorsque toutes ces choses seront accomplies, tous ces jugements, alors le mystère de Dieu sera accompli. Nous allons à Apocalypse 11. D'abord, dans les premiers versets, Jean voit le temple à Jérusalem. Ok ? Il y aura un troisième temple à Jérusalem. Et il voit ceux qui adorent dans le parvis. Alors, il est question ici de ce temple qui est actuellement et préparé en Israël en vue de l'avenir imminent. Et vous voyez, juste pour se rappeler, nous avons là les 3 ans et demi et 3 ans et demi entre l'enlèvement et le retour de Christ. Dans ce plan, j'ai essayé d'être très précis. C'est pour ça que j'ai mis après enlèvement X, voyez, et 3 ans et demi. Pourquoi X? Parce que les 7 ans vont commencer par l'événement que le dictateur futur de l'Europe va faire une alliance de sécurité avec Israël sous la domination de l'Antichrist. Parce que le dictateur et l'Antichrist seront des amis. Eh bien, il n'y a aucun passage dans la Bible qui dit que ce moment de conclure cette alliance aura lieu le jour de l'enlèvement. C'est pour ça que je mets X et 3 ans et demi. Mais, comme j'ai déjà un peu indiqué, il ne faut pas penser que ce serait encore une longue période, parce que les événements vont vraiment se précipiter après l'enlèvement où le Saint-Esprit, qui retient le mal, sera parti. Eh bien, j'ai déjà montré entre la fin de la 69e semaine, Daniel, le jour de dimanche des rameaux, jusqu'à Pentecôte, c'était une période de 58 jours. Alors, ça se peut aussi que ce soit simplement quelques semaines. Ne dites jamais que j'ai dit ce sont quelques semaines, parce que ce n'est pas écrit dans la parole. C'est seulement par déduction ou par similarité, par un parallélisme, pardon. C'est un terme qui exprime cette idée. Et voilà, 3 ans et demi, qui sont 1260 jours. Où les 2 témoins à Jérusalem rendront témoignage pour l'Éternel. Et ces 2 témoins feront des miracles, comme Moïse, en transformant l'eau en sang. Et les 2 ont le pouvoir de faire arrêter la pluie, comme Élie, le prophète, pendant 3 ans et demi. Vous voyez ? Alors, il y a des gens qui ont dit, voyez, Moïse et Élie vont revenir. Parce que les 2 ont le pouvoir comme Moïse. Et les 2 ont ce pouvoir de fermer le ciel. Donc, les 2 sont Moïse, les 2 sont Élie. Non, ils ont le caractère de Moïse et d'Élie. C'est-à-dire Moïse qui représente la Torah, la loi, et Élie qui représente les prophètes. Et l'Ancien Testament, à plusieurs reprises, est appelé la loi et les prophètes. Donc, en Israël, à Jérusalem, ils vont rendre un témoignage en accord avec ce qui était toujours connu en Israël, l'Ancien Testament. Et voilà, après 1260 jours, ils seront tués par la bête romaine, c'est-à-dire par le dictateur de l'Europe. Et voilà, les gens vont se réjouir parmi les peuples et les nations du monde. Et ils vont envoyer l'un l'autre des cadeaux. Et ils vont voir leur corps mort dans les rues de Jérusalem. Autrefois, des sceptiques se sont moqués de la Bible en disant, « Voyez, c'est une bêtise ce qu'on lit dans la Bible. » Il y a deux morts dans les rues de Jérusalem, et la Bible dit « Des nations et des peuples vont voir pendant 3 ans et demi leur corps. » Oui, oui. Aujourd'hui, ce n'est pas un problème par la télé, par Internet, n'est-ce pas? On peut aller sur Internet et voir n'importe quel lieu dans le monde entier. Eh bien, la Bible dit « Ça sera comme ça. » Mais avec ça, on peut prouver qu'il s'agit ici, en rapport avec le témoignage des deux témoins, des premiers 3 ans et demi, et non pas des deuxièmes 3 ans et demi. Vous voyez? Parce que, à la fin de la grande tribulation, aussi de 1260 jours, le Seigneur va venir comme roi. Alors, ça ne peut pas être le moment où la bête tue les deux témoins. Les gens se réjouissent 3 jours et demi, voyant les corps morts dans les rues de Jérusalem. Ça, c'est absolument possible là, dans la première partie. Et voilà, quand la grande tribulation va venir, les 144 000, selon Matthieu 24, vont prendre la fuite sur les montagnes. Le Seigneur dit, lorsque vous voyez cette abomination, prophétisée par Daniel, donc je veux dire, cette idole que l'Antéchrist va mettre dans le troisième temple. Parce que lui va être un ennemi du troisième temple. Et les 144 000, le résidu d'Israël, va rendre culte dans le troisième temple. Et alors là, ils savent, maintenant nous devons prendre la fuite sur les montagnes. Et le Seigneur dit, et après, il y aura une grande tribulation. Alors ils vont prendre la fuite sur les montagnes, et selon Ésaïe 16, ils vont se rendre à Moab. C'est la région de la Jordanie actuelle, à l'autre côté de la mer Morte. Et là, Dieu va les protéger, les garder pendant 3 ans et demi. Et ainsi, le roi du Nord, Daniel 11, 40, va envahir Israël depuis le Nord, et il va détruire 2/3 de la population d'Israël. Et là, il faut expliquer que le terme « le roi du Nord » dans la prophétie accomplie de Daniel 11, 1 à 35, c'était la grande Syrie qui englobait Liban, Syrie d'aujourd'hui, les territoires de la Turquie actuelle, Turkménistan, Ouzbékistan, Tadjikistan, Afghanistan, Pakistan, Iran, Irak. Vous voyez, le monde islamique où plusieurs parties voudraient établir un État islamique. Voilà, Daesh veut établir un État islamique. Mais l'Iran aussi, simplement, l'Iran ne voudrait pas se courber à la dictature de Daesh. Mais il veut la même chose. Et qu'est-ce que Erdogan veut? Il voudrait rétablir l'État islamique qu'ils avaient par l'Empire ottoman. Ils veulent tous la même chose, mais ils se tapent l'un sur la tête, l'un l'autre. Et si à un moment, Hamas, Hezbollah au Liban, Iran, Daesh, etc. se met d'accord, eh bien, nous avons exactement ce que la Bible appelle le roi du Nord qui va envahir Israël et tuer 2/3. Mais pendant cette grande tribulation, voilà 1/3 va se tourner vers le Seigneur. Zacharie 13, verset 8. Mais les 144 000 vont résider à Moab. Région qui va être une protection lors de l'attaque du roi du Nord. Et voilà, là commence, avec la grande tribulation, le moment où le Seigneur a appelé en Jean 9, l'heure vient où personne ne peut agir. N'est-ce pas? Les 144 000 et aussi les témoins à Jérusalem, ils vont rendre témoignage pendant les premiers 3 ans et demi après que c'est fini. Et à la fin du chapitre 11, Jean voit encore une fois le temple céleste et l'arche de l'Alliance pour dire Dieu se rappelle de toutes les promesses qu'il a données à Israël. Même lorsqu'ils vont passer par un temps tellement terrible, décrit dans le petit livre ouvert. Apocalypse 12. Nous sommes toujours là dans une des parenthèses, n'est-ce pas? Qui explique justement l'arrière-plan de tous ces événements. Et là, Jean voit d'abord une femme avec une couronne d'étoiles, 12 étoiles. Et elle est habillée du soleil, et voilà la lune au-dessous de leurs pieds. C'est une représentation d'Israël, composée de 12 tribus, n'est-ce pas? Et alors, cette femme est enceinte, et elle donne naissance au Messie. L'enfant est décrit comme le Messie au psaume 2. Les mêmes formules qui sont utilisées en Apocalypse comme pour le Messie en psaume 2. Mais, alors j'en vois comme le dragon rouge avec 7 têtes. C'est le diable qui veut immédiatement dévorer l'enfant après la naissance. Eh bien, ici, nous avons un flashback. Donc, un retour en arrière, 2000 ans en arrière, où Hérode, le grand, était poussé par Satan, le dragon rouge, pour détruire la vie du Messie. Mais là, comme dans le film, en vitesse, les moments sont mis ensemble par une accélération. Il y a un terme en français pour ça. Une séquence. Merci. Alors, vous voyez, parce que tout de suite il est dit, et l'enfant est enlevé au ciel vers le trône de Dieu. Là, il s'agit déjà, après la vie du Messie, le retour, lorsqu'il est retourné au ciel. Après la résurrection, il a été enlevé depuis le mont des Oliviers, acte 1. Et ensuite, Jean voit comme cette femme, qui signifie toujours Israël, s'enfuit dans le désert où Dieu va la nourrir pendant 3 ans et demi, pendant 1260 jours. Vous voyez, Israël, du passé, qui a donné naissance au Messie, et maintenant Israël est dans l'avenir, qui est représenté par les vrais croyants d'Israël, les 144 000, qui vont prendre la fuite pour aller à Moab, dans le désert, pour être nourris pendant 3 ans et demi. Et toujours là, en Apocalypse 12, Jean voit comme il y a une guerre dans le ciel. Et voilà Michael, l'archange, avec ses anges, fait la guerre contre le diable et ses anges. Cela nous montre que juste à ce moment-là, le diable a toujours accès vers le trône de Dieu pour accuser les croyants. Comme à l'époque de Job, n'est-ce pas? Où il est venu parmi les fils de Dieu, les anges, pour accuser Job. Et alors, le texte dit qu'à ce moment-là, Michael va jeter le diable et ses anges hors du ciel, sur la terre. Et plus jamais, il va pouvoir retourner pour accuser les croyants. Encore aujourd'hui, il nous accuse. Mais nous avons le Seigneur Jésus comme notre avocat qui rend les choses claires, qu'il est mort pour chaque péché dans notre vie. Et en plus, lui comme avocat, 1 Jean 2 verset 1er, c'est lui qui nous amène à la repentance. Mais alors là, il sera jeté du ciel et voilà la femme, elle va au désert Et maintenant, le texte dit que le diable, il est tellement furieux parce qu'il sait qu'il n'a plus beaucoup de temps. Et c'est exactement par la révélation divine de la Bible, encore 1260 jours. Donc il sera tellement furieux qu'il va vraiment faire le pire. La grande tribulation et on est le résultat. Voilà, Apocalypse 13. Là, Jean voit une bête avec cette tête qui monte de la mer. Il s'agit ici d'une image que nous connaissons déjà par Daniel 7. La prophétie des quatre empires mondiaux et la quatrième bête est représentée comme cette bête ici en Apocalypse. Et dans Daniel, la quatrième bête, ça c'est tellement évident, c'est l'Empire romain. Et je dis, maintenant dans l'Apocalypse, nous voyons l'Empire romain qui revient dans les derniers jours. Et ce qui est curieux, lorsqu'on lit Apocalypse 13, versets 1 à 10, on a l'impression, oui, ça doit être un empire. Oui, c'est juste parce que dans Daniel 7, nous avons cette quatrième bête et un empire. Mais la description parle vraiment d'un homme, d'un dictateur terrible qui reçoit directement du diable son pouvoir. Eh bien, comment on peut comprendre? C'est un empire ou c'est un homme? C'est tout simple. Nous avons appris à l'école, Louis XIV, qui a dit, l'État, c'est moi. C'est tout simple. C'est à la fois un empire, c'est à la fois une personne qui représente cet empire. Et voyez, l'Europe, la nouvelle Europe aujourd'hui, qui se veut comme empire romain. C'est là, par exemple, notre docteur Franz Danka, un des secrétaires d'État des dernières années, il est pour la nouvelle Europe. Il a dit, en vue de l'Europe d'aujourd'hui, nous sommes en train de construire un saint empire romain des nations européennes. C'est clair, n'est-ce pas? Et déjà, Émile Luce, un des grands visionnaires de la nouvelle Europe, il a dit dans les années 50, l'Europe, l'unité de l'Europe, nous ne devons pas créer, mais simplement restituer. Vous voyez, l'idée est claire. Mais l'Europe passe actuellement par des grands problèmes, des problèmes énormes. Et des plus grands problèmes vont suivre. Je rappelle les premiers sauts. Et cela va amener la masse à dire, nous avons besoin d'un homme fort. Nous sommes prêts à abandonner la démocratie. Eh bien, la bête d'Apocalypse 13. Mais, juste au chapitre 13, verset 11, Jean voit une deuxième bête qui ne monte pas de la mer, de l'abîme, ou mer, mais qui monte de la terre. Et cette bête est comme un agneau, mais parle comme le dragon. Ça, c'est l'Antichrist. Vous voyez? Donc, celui qui se représente comme étant le Messie, l'agneau de Dieu. Mais si on écoute bien son message, on réalise que c'est le diable qui parle par lui. Et il est dit de ce faux Messie, il a le pouvoir de faire descendre du feu du ciel. N'est-ce pas? Ce qui était dans l'Ancien Testament, la preuve pour le seul vrai Dieu, je fais référence à l'histoire d'Élie, sera là donc le moyen pour induire à l'erreur les grandes masses. Alors il va dire, voyez, dans l'Ancien Testament, juif orthodoxe, c'est clair, le feu du ciel, c'est la preuve pour le seul vrai Dieu. Eh bien, je le fais. Voyez. Et les masses vont dire, c'est évident, c'est clair. En plus, il va faire, dit chapitre 13, verset 14, il va faire une image qui parle. Oui, c'est de l'idolâtrie, parce qu'il demande de vénérer cette image, qui d'ailleurs va représenter son ami en Europe, la bête romaine. Et voilà, il va dire, oui, vénérer une image, c'est de l'idolâtrie, c'est clair. Mais lisez le psaume 115. Alors là, il est dit, les dieux des nations ont une bouche, mais ils ne parlent pas. Écoutez, le texte biblique dit, cette image parle et démontre que tous ceux qui n'adorent pas cette image doivent être tués. Vous voyez, c'est pas une idole. C'est une image qui parle. Les idoles qui ne parlent pas sont défendues par la parole. C'est autrement maintenant. Les masses vont être séduites par l'Antéchrist. Et en plus, il va dire, on arrête avec la monnaie. Tout le monde doit mettre un signe, un nombre sur la main droite ou sur le front. Et ainsi, on peut payer, acheter et vendre. Eh bien, nous savons que la technologie est au bout pour réaliser cela. Et là, ils doivent mettre comme code le chiffre qui symbolise le futur dictateur. 666. 666. Ou simplement son nom avec des lettres. Comment on peut parler d'un nom? C'est tout simple. Ici, vous voyez le nom Jésus en grec. Jésus. Iota a la valeur 10 en grec. Et puis, eta est long. 8, sigma, 200, etc. Si on calcule tout ensemble, ça fait 888. C'est intéressant, n'est-ce pas? Et le chiffre 7, c'est la perfection divine, la justice de Dieu. Et 6 au-dessous, c'est le péché, la méchanceté de l'homme. Mais Jésus-Christ, il n'est pas simplement selon la justice de Dieu, mais le Seigneur, à la croix, il a glorifié Dieu plus que notre péché avait déshonoré Dieu. C'est pour ça, 888. Apocalypse 14. Nous montre, nous avons toujours entendu dans cette longue parenthèse, 7 différents groupes d'hommes pendant le temps de ces jugements. Alors, puisque nous faisons une introduction, je passe un peu dessus, juste les versets 1 à 5. Là, j'en vois les 144 000 sur le mont Sion avec la vie. Vous voyez, au chapitre 7, il les a vus avant la grande tribulation. Ils ont reçu le sceau, signe qui marque la protection divine pour passer par la grande tribulation. Et maintenant, il les voit après la grande tribulation. Rassemblés sur le mont Sion, qui est dans la Bible toujours le mont du Temple. Le mont Morija, c'est la même chose. Et le texte dit « avec l'agneau ». Le Seigneur Jésus va revenir sur le mont des Oliviers, ensuite va aller sur le mont du Temple et se rassembler avec les 144 000 qui vont retourner de voir à la fin de la grande tribulation. Il est rassemblé là, avec eux. Et le texte biblique dit, Jean entend un chant du ciel et le son d'arc venant du ciel. Ça, c'est intéressant. Et sur le mont du Temple, les 144 000 chantent le même cantique, le nouveau cantique de la rédemption. C'est le cantique que l'Église, les 24 anciens, chantent en Apocalypse 5. Et là, ils vont entendre du ciel, ils vont chanter le même cantique. Et le texte dit, seulement les 144 000 seront capables de chanter. Ce qui est intéressant, ciel et terre est ici online. En lien. Et les humains chantent la même musique comme la musique au ciel. Ça, c'est beau de penser que la musique dans le ciel, ce ne sera pas comme plusieurs se sont imaginés, une chose totalement différente de ce que nous appelons musique sur la terre. N'est-ce pas? Parce qu'ils vont pouvoir chanter ce même cantique sur la terre. Mais il faut peut-être quelques temps, mais ce n'est pas notre sujet, ça sera en tout cas pas rock'n'roll. Et là, c'est intéressant, rock'n'roll. On a donné ce nom à cette nouvelle musique, combinaison de rhythm and blues, avec un style des blancs, dans les années 1950. On a donné ce nom rock and roll. Et rock and roll, c'est un terme dans les ghettos des Noirs pour dire fornication. Donc tout de suite, remarquez cette musique avec un rythme qui bouge pas, qui est toujours la même chose. Pas comme dans la musique classique et dans la musique juive de l'Ancien Testament où on chante comme on respire, naturellement. Ils ont réalisé cette musique induit dans cette direction. Oui, mais là, les 144 000, un cœur sur la terre qui chante la même musique comme au ciel. Et le texte dit, ils porteront le nom de l'agneau sur le front. Quel est le nom de l'agneau? Le texte ne le dit pas, mais c'est clair, Jésus. Mais juste le verset avant dit que les impies qui vont suivre la bête vont mettre 666 sur leur front. Et là, les croyants, le nom de l'agneau sur le front. Là, le front, c'est la région du cerveau où on planifie, n'est-ce pas? Et là, ça nous rappelle 2 Timothée 2, verset 8, où Paul dit, « Tiens à ta mémoire, Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts, de la semence de David. » Eh bien, c'est quelque chose qui doit nous caractériser, d'avoir le Seigneur Jésus dans le centre de notre planning, de notre pensée, de notre réflexion. Oui, ça c'est le premier amour. Alors on peut apprendre énormément des 144 000. Je trouve ça merveilleux. On apprend des choses pour aujourd'hui, des croyants qui n'existent pas encore. Comme des croyants. C'est possible qu'ils vivent déjà, mais ils vont se convertir après dans des mois. Alors, je passe dessus. Il y en a 7, exactement 7 groupes d'hommes qui sont mentionnés en rapport avec les jugements. Et nous arrivons à Apocalypse 15. Et là, se préparent les anges avec les derniers groupes. D'abord, Jean voit encore les vainqueurs debout sur la mer au ciel. Les martyrs qui étaient victorieux sur l'image, ils n'ont pas vénéré l'image, ils n'ont pas accepté ce signe de la bête, et donc ils passeront par la mort. Mais Jean les voit dans le ciel, donc parmi, vers la mer, et ils chantent avec des arcs. Et ils chantent le cantique de l'agneau et le cantique de Moïse. Pour Jean, c'était tout de suite clair ce que ça veut dire. Oui, autant jusqu'à l'an 70, on a toujours le jour du sabbat, le chœur des Lévites chantait dans le temple le cantique de l'agneau, Exode 15, après la Pâque. Et aussi de Deutéronome 32, le cantique de Moïse. Donc, il voit là la situation du sabbat dans le ciel. Vous voyez, lorsqu'on passe par le monde actuel, on ressent toujours des pressions et des difficultés, n'est-ce pas? Et nous sommes sollicités, nous passons par à travers des tentations, mais aussi pour nous, nous avons cette promesse en Hébreux 4, verset 8, qu'il y a encore un repos du sabbat pour le peuple de Dieu. Mais dans le ciel, on ne devient pas comme Église de Dieu des sabbatistes. Vous voyez, le sabbat a été donné comme signe au fils d'Israël par l'Église. Mais nous avons cette promesse d'Hébreux 4 d'un repos du sabbat au ciel, où nous allons arriver et comme ces vainqueurs, et nous allons entrer dans le. Si on s'imagine, le moment où on va arriver, plus de tentations, plus de pression, plus de difficultés. Et on va chanter le cantique de l'agneau et le cantique de Moïse qui parle de la fidélité du Seigneur, le roche parfait, le roc parfait. Et bien, après, j'envoie les 7 anges avec les coupes. Maintenant viennent les derniers jugements. La 7e trompette consiste en 7 coupes. Et les premiers quatre coups sont un groupe qui touche la terre, ensuite la mer, les fleuves et les ours, et les corps célestes, comme déjà expliqué. Alors, je ne vais pas entrer dans les détails des sept coupes qui sont représentées ici. Et voilà juste la cinquième coupe des ténèbres vont tomber sur le royaume de la bête. Donc Dieu va laisser tomber les rebelles de la nouvelle Europe dans les ténèbres totales, où ils vont réaliser qu'ils étaient complètement dans l'erreur. Et là, nous avons encore la sixième coupe, l'Euphrate devient sec, et les rois de l'Orient vont se mêler dans les guerres mondiales. Donc, des armées plus loin que l'Euphrate. Et ça nous indique donc les grandes armées de orientales. N'est-ce pas, le texte ne dit pas de nom, c'est pour ça que je ne dis pas, voilà, c'est la Chine, c'est l'Inde, c'est le Japon, mais le texte parle des rois de l'Orient qui vont venir. Et nous savons déjà combien cette région de l'Euphrate jouera un rôle clé dans les derniers événements, et maintenant encore l'Orient qui intervient. Et puisque Israël, selon l'Antichrist, sera attaqué par le roi du Nord, le monde islamique, n'est-ce pas? Ils doivent intervenir pour aider Israël sous l'Antichrist, bien entendu, pas pour aider le résidu. Vous voyez, Israël sera divisé en deux, les impies et les justes. Et voilà Apocalypse 16, une petite parenthèse, parle des armées de l'Europe qui se rassemblent au lieu appelé en hébreu Armageddon. C'est une plaine énorme au nord d'Israël. Là, ils vont se rassembler. Juste derrière Haïfa. Ensuite, la septième coupe, un tremblement de terre comme il n'a jamais eu depuis le commencement du monde. Et le texte dit, et toutes les villes des nations tomberont. Nous voyons, le chemin est préparé pour le roi des rois. Et nous avons encore une dernière parenthèse, Apocalypse 17 et 18. N'est-ce pas? Selon le schéma que nous connaissons. Et là, il s'agit de Babylone la Grande, la prostituée. Babylone, c'est le nom grec de Babel, qui provient du babylonien Bab-Ilani, la porte des dieux. Et la forme hébreu, Babel, veut dire confusion. Qu'est-ce que c'est Babylone la Grande, la prostituée? C'est un système religieux et c'est une femme qui est dans l'Apocalypse en opposition avec une autre femme qui est appelée l'épouse de l'agneau, la nouvelle Jérusalem, l'épouse de l'agneau. Ça, c'est l'Église. Les vrais croyants sont appelés l'épouse de l'agneau. Voilà l'opposition de la prostituée. Mais la prostituée est d'une ville, Babylone. Mais l'Église est aussi désignée comme une ville, la nouvelle Jérusalem. Non pas la Jérusalem céleste. Là, j'ai déjà parlé de cette ville dans le ciel. Cette ville est appelée Jérusalem céleste. Mais la nouvelle Jérusalem est une description symbolique de l'épouse de l'âme. Et nous allons juste voir par quelques indications, parce que c'est seulement une introduction. Il s'agit ici de l'Église catholique romaine. Et voilà, le texte dit que cette prostituée, elle a fait la prostitution avec les rois de la terre. Et le monde entier a passé par l'ivresse, par le vin de la fornication de Babylone. Donc elle a une influence mondiale sur le monde entier. En plus, Jean voit cette femme, elle est la cavalière sur la bête. Qui commente si on sait faire du cheval. C'est le cheval ou c'est celui qui se met sur le cheval? Bien, c'est clair. La cavalière commande. Donc, il s'agit ici d'une force religieuse qui devait être donc celle qui commande sur l'Empire romain. Et nous connaissons cette histoire de 2000 ans de la chrétienté. Et là, pendant des siècles, l'Église de Rome s'est mise sur cette bête qui est le Saint-Empire romain. Et voilà, ça correspond exactement. Et justement, c'est donc en contraste avec la Nouvelle Jérusalem, l'épouse de l'agneau, qui est montrée à Jean, aussi par un ange des sept coupes. Mais c'est aussi un ange des sept coupes qui, dans le désert, montre à Jean la prostituée. Et sur une haute montagne, il montre l'épouse de l'agneau. C'est intéressant, c'est ce parallélisme, n'est-ce pas? Un contraste entre la vraie Église et la fausse Église. En plus, il est dit, 17 verset 9, « Elle est assise sur cette montagne. » Rome était toujours connue comme la ville aux sept collines. 17-18 dit, « Elle est la grande ville qui détient la royauté sur les rois de la terre. » C'est quelle ville? C'est Rome. Et alors, là, je passe un peu dessus pour gagner du temps. Je dois peut-être quand même expliquer ça un tout petit peu. Hein. Oui, oui ça il faut. Vous me donnez le temps?
Oui.
On a encore 20 minutes. Alors, lorsque je parle de l'Empire romain, j'ai déjà fait référence au rêve de Daniel en Daniel 7, où il voit quatre animaux qui sortent de la mer. D'abord un lion avec des ailes d'aigle, ce qui représente l'Empire babylonien. Ensuite, un ours vorace et balourd qui représente le deuxième empire dans l'histoire, après Babylone, les Mèdes et Perses. Ensuite, un léopard rapide avec quatre ailes et quatre têtes, l'Empire Grèce d'Alexandre le Grand. Et ensuite, une bête effrayante et terrible avec 10 cornes. Ça, c'est l'Empire romain. Ensuite, Jean voit le Fils de l'homme sur les nuées des cieux pour établir le royaume de Dieu. Alors, nous avons ici cet enseignement basique de la prophétie des quatre empires. Babylone, Médé-Perse, Grec et Rome. Et ensuite, le royaume de Dieu. Mais maintenant, nous faisons de l'Ancien Testament, de Daniel 7, un saut au Nouveau Testament. Parce que Jean voit cette même bête. Et la cavalière, bien sûr. Mais cette bête a trois phases. Et c'est appelé ici le mystère de la bête. Donc une vérité que vous ne trouvez pas dans l'Ancien Testament. Mais à 95, après Jésus-Christ, ça a été révélé à Jean. L'Empire romain a trois phases. Apocalypse 17, 8. La bête que tu as vue était, n'est pas, et va monter de l'abîme pour puis aller à la perdition. Trois phases. Donc, l'Empire était, l'Empire n'est pas, l'Empire va monter. N'est-ce pas? C'est le fait que Dieu est appelé dans l'Apocalypse celui qui était, celui qui est et celui qui vient. Et alors, cette bête est appelée. Elle était, n'est pas. Elle va monter, puis aller à la perdition. Voyez le contraste. Trois phases. Et voilà, l'Empire romain était lorsque le Messie est venu la première fois, sous l'Empire Auguste. Et cet empire a continué. En fait, il n'y a jamais eu une fin, même lorsque la partie occidentale a chuté, mais l'Empire byzantin a continué jusqu'à la fin du Moyen-Âge, n'est-ce pas? Et lorsque l'Empire byzantin, donc l'Empire romain de l'Est, est tombé, eh bien, Charlemagne avait déjà longtemps rétabli à l'Ouest l'Empire romain. le Saint-Empire romain. Et cela a continué jusqu'au début du XIXe siècle. Et ensuite, on a eu une phase, l'Empire romain n'est pas. Mais nous apprenons que dans la période où le Messie va revenir comme juge du monde, l'Empire va monter de l'abîme. Et j'ai déjà expliqué, l'abîme, c'est l'expression en Romains 10 pour le Hadès, le séjour des morts. Et effectivement, la nouvelle Europe qui a commencé à se réunir, c'était juste après la Seconde Guerre mondiale. La pire des guerres dans l'histoire humaine. Ensuite, la bête a commencé à sortir de l'abîme. Et voilà, il faut donc distinguer l'Europe politique comme empire romain et l'Église catholique. Mais il est intéressant que ces prostituées et les habillées de la pourpre et de l'écarlate, ce sont les couleurs typiques pour les cardinaux et les évêques, comme vous voyez ici. Ensuite, elle est ornée de l'or, des pierres précieuses et des perles. J'ai visité une fois un des trésors du Vatican avec mon épouse. Et on a vu ça, l'or, les pierres précieuses, les perles en masse. Et Apocalypse 17,4 dit, elle tient entre ses mains une coupe d'or pleine d'abominations. Et voilà, cette coupe d'or forme le centre du culte, où on dit le vin est transformé en le vrai sang de Christ, et le pain transformé en le vrai corps de Christ. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut adorer le pain. C'est un culte, un rituel très important de l'adoration du pain. Et lorsqu'on adore la matière, c'est de l'idolâtrie. C'est pour ça qu'il est dit la coupe d'or est pleine d'abominations. Et voilà, tout cela est appelé le mystère de Babylone. Pourquoi mystère? Parce que Babylone de l'Apocalypse n'est pas Babylone de l'Ancien Testament. Il s'agit ici d'une vérité qui était cachée dans l'Ancien Testament. Voilà. Si la vraie Église était cachée, alors la chrétienté était aussi cachée. N'est-ce pas? Les mystères de Dieu, l'Église. C'est pour ça qu'il est question du mystère de Babylone. Ensuite, il est dit, cette femme est ivre du sang des saints. Seulement dans la persécution des Vaudois, on avait tué à peu près 800 000. Vaudois. Ensuite, les Huguenots, des dizaines de milliers étaient tués parce qu'ils croyaient en la grâce par la foi, ivres du sang des saints. Maintenant, je saute un peu. Dans le même chapitre après, il est dit que, justement, les armées de l'Empire romain vont donc aller à Armageddon. Et là, le Seigneur va arriver. Ceux-là combattront contre l'agneau. L'agneau les vaincra, car il est Seigneur des seigneurs et roi des rois. Et avec lui, ceux qui sont appelés élus et fidèles. Nous avons vu, ils vont se rassembler à Armageddon, dans cette plaine, avec 740 kilomètres carrés, directement derrière la ville moderne de Haïfa, où se trouve aujourd'hui le grand port maritime d'Israël. Alors, si les grands bateaux militaires de l'Occident doivent aller à Israël, ils doivent aller à Haïfa. Et directement derrière, il y a Armageddon, pour se rendre. Là, cette photo j'ai prise depuis le mont Carmel, la plaine d'Armageddon avec un des plus grands aéroports militaires d'Israël à Armageddon. C'est idéal. Tout est préparé. Mais là, une chose merveilleuse. Le Seigneur Jésus, lorsqu'il est venu la première fois, la plus grande partie de sa vie, il a vécu à Nazareth. Donc là, sur les montagnes, juste à côté d'Armageddon. Lorsqu'il est venu la première fois, il savait, je suis venu comme le sauveur du monde. Mais un jour, je vais revenir à Armageddon comme le juge du monde. Et là, nous avons vu que l'Europe va attaquer le Seigneur. D'ailleurs, à l'époque, lorsque le Seigneur a parlé de la grâce dans la synagogue, à la synagogue de Nazareth, et l'ont poussé hors de la synagogue après pour le faire précipiter de la falaise près de Nazareth, pour le faire tomber à Armageddon. Vous voyez? Mais le Seigneur s'est échappé. Mais il va revenir. Donc, là, à Nazareth et à Armageddon, on a vraiment géographiquement mis ensemble la première venue comme sauveur, la deuxième venue comme juge. Et voilà, le texte dit que cette nouvelle Europe, cet empire romain, les derniers jours, va haïr la prostituée. Vous voyez, cette attitude de la politique européenne et de l'Église catholique. Tout le temps, ils font des visites et ils se donnent de la gloire, mais il n'y a pas d'amour. C'est une relation avec une prostituée, n'est-ce pas? Pas d'amour, mais ils haïssent cette Église. Et aussi beaucoup parce qu'elle retient encore aujourd'hui des valeurs bibliques. Même que le système, n'est-ce pas, est vraiment contre la parole, il y a des valeurs et ils haïssent. Et ils vont finalement tuer et brûler la prostituée. Ce sera la fin de cette Église de Rome. C'est quand même incroyable. Si on pense à Londres, 95, Jean savait, à Rome, il y aura une fois le siège d'un système d'une contre-Église qui va être ivre du sang des saints et qui va contrôler et dominer l'Empire romain, n'est-ce pas? Et c'est cette ville où déjà l'apôtre Paul avait envoyé une lettre, la lettre aux Romains, pour expliquer qu'on est justifié seulement par la grâce, sans les œuvres, seulement par la foi. Okay. Exactement à Rome. Mais ce développement est décrit déjà dans l'Apocalypse. Mais dans le chapitre 18, Jean voit encore une fois le Seigneur, comme prophète, qui annonce la chute de Babylone la Grande. Et une chose importante, ça va être une clé pour comprendre ces deux chapitres. Dans chapitre 17, il est plutôt question de la femme. Dans chapitre 18, de la ville. C'est le même système, mais ce sont deux aspects. La femme, c'est plutôt la religion. Et la ville, c'est plutôt l'économie et la politique. Et voilà, dans chapitre 18, Babylone est décrite comme un système avec une économie mondiale, avec une richesse énorme. Et c'est vrai, à Rome, nous avons une des organisations les plus riches du monde. Si on calcule toutes les possessions de l'Église dans le monde entier, et ils sont même parmi les plus grands possesseurs de papier, de valeur. Et voilà, chapitre 18 montre que pas seulement le système religieux va tomber, mais aussi cette puissance économique. Mais dans ce chapitre-là, Dieu dit à son peuple en Babylone, à Babylone, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple !» Donc, Dieu voit la foule des vrais croyants dans le système. Donc, il faut clairement distinguer entre le peuple de Dieu dans l'Église et le système comme tel. Et d'ailleurs, Martin Luther, il y a 500 ans, il s'est converti lorsqu'il était encore dedans. Il a reconnu le salut par la foi. Et voilà, Dieu connaît son peuple. Mais à son époque, il y avait des milliers de femmes et d'hommes qui sont sortis des monastères lorsqu'ils ont réalisé la grâce de Dieu. Ils ont écouté cet appel, sortez du milieu d'elle, mon peuple. Et il est remarquable, à l'époque de la réforme, il n'y avait pratiquement pas, ou pas du tout, des gens du rang de l'évêque et plus haut qui se sont convertis et qui ont accepté les découvertes de la réforme. Ça montre qu'il y a des milliers parmi les gens de moindre importance, des milliers, mais on voit que le pouvoir, la puissance, c'est vraiment un danger. Et alors, chapitre 18 dit que ce système de toute richesse va tomber. Et là, les rois de la terre vont pleurer. Mais comment? Au chapitre 17, ils ont brûlé la prostituée parce qu'ils ont haï. Et maintenant, ils pleurent. Ce sont deux phases. D'abord, ils vont détruire le système dans son aspect religieux. Mais l'aspect économique va continuer. Et juste à la fin, après la septième coupe, on peut lire, après la septième coupe, Dieu va détruire aussi, faire tomber le système économique. Ensuite, Apocalypse 19, Jean entend le grand Alléluia au ciel. Et l'invitation aux noces de l'agneau dans le ciel. Donc, lorsqu'il y a la pire des catastrophes sur la terre, la plus grande joie dans le ciel. Les croyants qui ont été enlevés vont finalement se rendre pour les noces de l'agneau dans le ciel. Les bienheureux qui sont invités aux noces, ce sont les croyants de l'Ancien Testament, et l'épouse, c'est l'Église. Et juste après, voilà, 19, verset 11, le retour de Christ. Le Seigneur va revenir avec les croyants, avec les armées au ciel, comme cavalier sur un cheval blanc, pour juger les armées de l'Europe à Armageddon. Et voilà, la parole parle du grand souper pour les oiseaux du ciel. Et la bête, donc le futur dictateur, et le faux prophète, c'est-à-dire l'antichrist, vont être pris et sans passer devant le tribunal, ils vont être jetés dans les temps de feu. Donc, l'enfer est vide pour le moment. Et personne. Ce sont les premiers qui vont être jetés dans les temps de feu. Apocalypse 20, un ange reçoit une clé et une grande chaîne et il est plus puissant que le diable. Il va le mettre à l'abyss, à l'abîme. Vous voyez là, on avait déjà des anges autrefois. Là, il va être lié pendant 1000 ans. Les hommes qui survivront devront passer devant le jugement du Seigneur, le jugement des vivants. Et c'est le moment où les martyrs de ce temps des jugements vont ressusciter. Voilà la résurrection des vrais croyants en plusieurs phases. Et le Seigneur va régner 1000 ans en paix. Seulement quelques versets dans l'Apocalypse parlent du millénium. Pourquoi ? Parce que le millénium est largement décrit dans l'Ancien Testament, mais l'Apocalypse insiste plutôt sur les choses qui n'étaient pas encore révélées pour compléter la Bible. Parce que ça devait être le dernier livre. Le Seigneur va régner à Jérusalem pendant 1000 ans en paix. Voilà la perfection par lui, le prince de la paix. Et à la fin de cet empire, le Satan sera délié et il va faire un égarement mondial. Parce que seulement des croyants d'Israël et des nations vont entrer dans le millénium. Mais ils vont avoir des enfants. Et à travers les générations, tous les enfants vont se convertir. C'est comme aujourd'hui. Si les parents sont convertis, ça ne veut pas dire que les enfants se convertissent aussi. Il y aura plusieurs qui se convertisseront pas, mais qui vont voir le Seigneur régnant à Jérusalem. Et le diable va les séduire pour un soulèvement contre la cité bien-aimée de Jérusalem. Et voilà Gog et Magog qui sera jugé par le feu du ciel. Et ensuite, Satan sera jeté dans les temps de feu. Et Jean voit le grand trône blanc où le Seigneur Jésus comme juge va se mettre pour le dernier jugement. Au même moment, la terre et le ciel s'enfuient. C'est le moment où, selon 2 Pierre 3, verset 10, Dieu va faire la destruction de cet univers. Et voilà, ce sera le jugement sur l'humanité perdue depuis Caïn, qui vont passer devant le trône. Et les livres vont prouver qu'ils sont coupables. Et aussi le livre de la vie sera ouvert, et si quelqu'un n'est pas trouvé, il va être jeté dans les temps de feu. Et ce qui est remarquable, on peut prouver par une étude complète du sujet du livre de la vie que Dieu a mis les noms de toute l'humanité. Même les enfants avortés sont notés dans ce livre. Lors de la création, Dieu a noté tous les noms parce que Dieu veut le salut de toute l'humanité. Mais pendant la vie de l'individu, il y a le temps de la grâce. Et Dieu appelle chaque homme et il le tire pour venir vers lui. Mais si l'homme résiste jusqu'à la fin, finalement, il sera effacé du livre de vie. Et lorsque le Seigneur va ouvrir le livre de vie, c'est pour prouver qu'il n'est pas dedans. Mais c'est parce que vous n'avez pas voulu. Moi, j'ai voulu. Vous n'avez pas voulu. Et voilà, Apocalypse 21 nous montre comme Dieu va créer un nouveau ciel et une nouvelle terre. Et là, Jean voit comme la nouvelle Jérusalem descend du ciel. Mais ce n'est pas la ville céleste, Jérusalem céleste, qui va descendre. Mais la nouvelle Jérusalem, c'est une description symbolique de l'Église. L'Église va descendre sur la terre pour régner avec Christ, même sur la nouvelle création. Mais il y a ceux dans les temps de feu. Et maintenant, on pourrait parler du symbolisme de toutes les pierres précieuses. C'est vraiment précieux ce qu'on peut en tirer comme leçon spirituelle. Je finis par Apocalypse 22, 18 à 19. Là, nous apprenons la vie des tempêtes. Si quelqu'un ajoute, Dieu va ajouter des jugements. Si quelqu'un enlève, Dieu va enlever la bénédiction. La Bible est complète. Et la dernière phrase, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec tous les saints. Amen. C'est ce que nous avons besoin chaque jour jusqu'à ce que le Seigneur vienne.
Donc, devant cette cantique et une prière, et on veut faire le bien.